crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs.
Aujourd'hui, nous observons ensemble une peinture réalisée par Henri de Toulouse-Lautrec vers 1892 ou 1895, entre les deux probablement, une huile sur toile d'1m23 par 1m41, intitulée au Moulin Rouge et aujourd'hui conservée à l'Art Institute de Chicago. C'est un tableau horizontal, barré d'une balustrade qui coupe en diagonale l'angle inférieur du côté gauche et qui ainsi donne la profondeur. Il est replié comme une carte de visite que l'on aurait cornée. Toute une scène est vue d'en haut et elle se renverse vers nous. À droite, dans le reflet des glaces de la grande salle, se dissolvent les silhouettes des clients, dévorés par les globes de lumière du premier établissement électrifié de Paris. Devant ces miroirs, disposés en trois points de la salle, des personnages, tous portraiturés en habitués, et qui composent en fait la société amicale de l'artiste. Au premier plan, à l'extrême droite, seul, coupé par le bord droit du tableau, apparaît un visage incroyable. Un visage de femme surmontant une robe noire. Un visage ou plutôt un masque, tant le maquillage souligné par les effets électriques accentue les contrastes. La tête basculée vers le haut découvre ses narines. Une bouche vermillon surgit brutalement dans la pâleur de la peau, tandis qu'au-dessus de l'arc blanc des paupières, un large front vert joue avec les cheveux dorés. C'est Mae Milton, la danseuse anglaise, peinte comme une figure de kabuki. Derrière elle, assise sur des chaises tonnées autour d'une table de marbre, cinq personnages, cinq amis de l'artiste, trois hommes en chapeau et deux femmes qui amènent les couleurs les plus vives. De dos, Jeanne Avril, probablement, la rousse, et de face, la Macarona, une danseuse espagnole, elle aussi, visage empâté de blanc et les lèvres rouges également. Derrière eux, les silhouettes au profil presque caricaturé, c'est Toulouse-Lautrec qui se représente lui-même sans se flatter et son cousin Gabriel Tapier de Céléran, grand, démesuré, et leurs deux corps superposés comme deux profils gigognes. Enfin, légèrement à l'écart, les deux amis célèbrent la Goulue, la reine du French Cancan, et sa maîtresse, la Môme Fromage. Portrait de famille donc, mais aussi composition d'époque, très japonaise et très parisienne à la fois, le tout brossé rapidement avec cette huile claire qui maintient les transparences et qui rappelle par endroits le Lautrec affichiste.
En bas, devant le théâtre, Fauchery et la Faloise allumèrent des cigarettes. Un rassemblement barrait le trottoir. Une queue d'homme descendue du perron respirant la fraîcheur de la nuit au milieu du ronflement ralenti du boulevard. Cependant, Mignon venait d'entraîner Steiner au Café des Variétés. Dans le café, les consommateurs trop nombreux se serraient autour des tables de marbre. Quelques-uns buvaient debout, précipitamment, et les larges glaces reflétaient à l'infini cette cohue de tête, agrandissaient démesurément l'étroite salle avec ses trois lustres, ses banquettes de moleskine, son escalier tournant drapé de rouge. À l'autre bout de la salle, la nuque appuyée contre le cadre d'une glace, une fille de 18 ans ou plus se tenait immobile devant un verre vide, comme engourdie par une longue et vaine attente. Sous les frisures naturelles de ses beaux cheveux cendrés, elle avait une figure de vierge, aux yeux de velours, doux et candide. Et elle portait une robe de soie verte déteinte avec un chapeau rond que des gifles avaient défoncé. La fraîcheur de la nuit la rendait toute blanche. « Tiens, voilà Satin !» murmura Fauchery en l'apercevant. La Faloise le questionna. « Oh, une rouleuse du boulevard, rien du tout !» Mais elle était si voyou qu'on s'amusait à la faire causer. Et le journaliste haussant la voix. « Que fais-tu donc là, Satin ?»« Je m'emmerde. » répondit Satin, tranquillement, sans bouger. Les quatre hommes, charmés, se mirent à rire. Émile Zola, Nana, 1880.
À l'instant, un extrait du roman Nana, écrit par Émile Zola, un des regardeurs du Paris nocturne de cette fin du 19e siècle. Et pour parler de cette ambiance des cafés, des cabarets dans lesquels Toulouse-Lautrec aimait être et dont il fit l'un de ses sujets privilégiés, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Robert Combas, l'artiste, musicien, écrivain, poète, inventeur de la figuration libre, accompagné par ses amis de l'époque, François Boiron, Hervé Di Rosa et Rémi Blanchard, mais aussi peintre incroyablement libre et observateur de la peinture. Bonjour Robert, vous allez bien ?
Ça va, ça va.
Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire ?
Si, si, complètement, ouais.
Tout est vrai.
Non, 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 c'est toujours gênant. La méta, c'est que quand on n'a pas de critique, on n'est pas content. Et puis quand on en a, on n'est pas content aussi. Parce que, de toute façon, excusez-moi, mais ça fait un moment que je suis conscient de mon ego. Stop. Stop. Je dis stop à moi parce que je continue à parler un peu trop. Et...
Mais je suis content qu'on puisse parler de Toulouse-Lautrec ensemble. Vous vous sentez très loin de Toulouse-Lautrec ?
Non, pas du tout. Non, non, mais je connais très bien. Je l'ai même rencontré. Et non. Moi, je connais un peu Toulouse-Lautrec à ma manière, mais j'ai fait une exposition sur Toulouse-Lautrec.
Ah bon ?
À Albi. Oui, oui. Alors, j'ai fait beaucoup d'expositions qui sont mal connues, scandaleusement, on va dire, mal connues. Puisque c'est des expositions qui sont d'abord pas ratées et d'abord des expositions qui auraient dû être vues. Mais le problème, c'est que les gens ont du mal à se déplacer en France.
Alors, si jamais on avait une petite faiblesse sur notre analyse historique de Toulouse-Lautrec, nous serons accompagnés par Isolde Pludermacher. Je suis ravi de vous avoir ici, Isolde.
Merci de m'avoir invitée.
Merci d'être avec nous. Vous êtes conservatrice au musée d'Orsay et vous êtes co-commissaire avec Marie Robert de cette exposition extraordinaire qui s'appelle « Splendeur et misère, images de la prostitution 1850-1910 ». Vous aviez auparavant travaillé sur Courbet, sur des sujets pas si éloignés de ce qui nous rassemble aujourd'hui, puisque vous aviez travaillé sur l'origine du monde.
Oui, effectivement, j'étais commissaire d'une exposition intitulée « Cet obscur objet de désir » au pluriel, autour de l'origine du monde de Courbet, et qui s'est tenue au musée Courbet d'Ornans.
Et quand vous aviez travaillé auparavant sur Manet, avec, je pense en particulier au bar aux Folies Bergères, on est dans une ambiance un petit peu voisine du tableau que nous voyons aujourd'hui sur cet autre grand lieu de la vie parisienne, ouvert une vingtaine d'années plus tard néanmoins.
Oui,
une
tout
dizaine
à fait.
D'années plus tard.
D'ailleurs, dans l'exposition Splendeur et misère, Manet est aussi à l'honneur. Et l'extrait de Nana de Zola, présentant le personnage de Satin, pour moi est très proche de la prune de Manet, par exemple, avec ce contraste entre la figure assez angélique du modèle et cette phrase incroyable « je m'emmerde » au café. Donc Manet, en effet, est un artiste, je pense, que Toulouse-Lautrec devait bien sûr connaître et apprécier, et dont les sujets sont assez proches.
Alors, nous allons rentrer dans notre grand sujet avec Toulouse-Lautrec, mais aussi avec les maisons de l'époque. Écoutons le critique d'art Thaddée Nathanson souligner le fait que Toulouse-Lautrec, contrairement à d'autres, ne posait pas un regard de jugement sur les maisons closes. Il en était un familier et s'y sentait chez lui, en quelque sorte.
Ce n'était plus un client. Il était de la maison. Lorsqu'on parle de Lautrec au bordel, il ne faut jamais omettre le ton moins de politesse que d'amitié dont il usait avec les pauvres filles, que peut-être il aimait moins pour leur chair nue que pour leur tendresse, qu'il s'ingénia à atteindre, voire leur métier de tendresse. Ce qui, dans les maisons closes, l'attendrissait, c'était petit ménage, jalousie, brouille et raccommodement, ce qu'il y trouvait de vie de famille. Plus que tout, les repas en commun. Thaddée Nathanson, un Henri de Toulouse-Lautrec, 1951.
troublant, que je murmure, câline au passant, à ma figure que le phare flétrit, chacun comprend qui je suis. On m'appelle fleur des joies, dans la rue guettant ma proie, je m'en vais glissant tel un fantôme, par mon air crapuleux, mon regard langoureux, tendrement je pervertis les hommes. Ça n'est pas du vrai amour, mais ma chair donne en retour au client le plaisir pour sa somme. Il trouvait dans mes bras son bonheur ici-bas. C'est ma vie, c'est ma loi, fleur de joie.
Nous entendions « Fleur de joie » de Roger Adrien Dumas et cet extrait de l'album « Au bordel, souvenir de Paris » de Noël Acheté. Robert, nous regardions ensemble ce tableau qui ne se déroule pas au bordel mais au Moulin Rouge. Qu'est-ce que vous pensez de l'atmosphère de ce tableau?
Je pense ce que j'ai entendu tout à l'heure, ça me suffit parce que je ne connaissais pas. Et là on voit bien qu'il n'y a pas de problème de technique comme il peut y en avoir aujourd'hui, que ce soit à la peinture ou dans le son.
Qu'est-ce que vous voulez dire, pas de problème de technique?
Techniquement, c'est un tableau, apparemment, d'après ce que dit la personne, parfait, parce que moi je ne sais pas ce que c'est, un tableau parfait, mais la personne le dit, et donc ça m'apprend quelque chose. C'est un tableau qui me semble très technique au point de vue peinture. Parce que Toulouse-Lautrec, de toute façon, moi, il m'intéresse personnellement, parce que c'est un des rares éclectiques. Et donc là... C'est un tableau qui me paraît très technique, donc, comme je dis, dans la qualité, évidemment, technique. Évidemment, parce que Toulouse-Lautrec, c'est quand même un des peintres qui sait faire plus que la technique. Eh bien,
mais vous ne voudriez pas qu'il y ait une liberté technique incroyable? Parce que quand on voit, d'abord, il y a beaucoup de jus, c'est pas fait en matière, et ça va très vite.
Alors moi, je ne vois pas ça comme une liberté de peinture, dans ce cas. De la peinture, comme on a dit. Des fois, on dit la peinture. Ça veut dire que c'est très peinture, ça veut dire c'est peint. Parce qu'il y a des trucs de Toulouse-Lautrec, par exemple, qui sont préparés à l'avance. Parce que moi, je voyais Toulouse-Lautrec comme quelqu'un de très propre. Alors qu'en vérité, c'est pas du tout ça vraiment. Parce que, vous voyez, je reproche par exemple au street art d'être trop propre, de pas avoir pris le mur. Toulouse-Lautrec, lui, il s'en sort bien quand on connaît tout. Alors, précurseur, parce qu'on sait regarder aujourd'hui des choses. Par contre, c'est moins bien regarder la peinture. C'est des tableaux, ça, on ne peut pas rentrer dans une galerie, rester un quart d'heure dans un vernissage et regarder un tableau comme ça. C'est un tableau qui se regarde plus sérieusement que ça. Alors il y a des tableaux comme les affiches de Toulouse-Lautrec qui sont faites pour être vues rapidement, et des tableaux comme ça qui sont faits pour être regardés sérieusement, je dirais, dans le sens de la peinture. Voilà.
Alors Isolde Plumarer, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ce tableau qu'on regarde donc attentivement aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que cette communauté qui est autour de Toulouse-Lautrec déjà?
Effectivement, déjà, c'est vrai que Toulouse-Lautrec s'est représenté dans le tableau avec son cousin, ainsi qu'une communauté qu'il connaissait bien pour la fréquenter régulièrement, à savoir ses amis du Moulin Rouge et les femmes légères, danseuses et chanteuses qui fréquentaient aussi le Moulin Rouge. Mais ce qui est extraordinaire dans ce tableau, c'est en effet ce mélange de techniques très virtuoses et très détaillées par endroits, comme le visage de la Macarona, par exemple, et une touche beaucoup plus libre, notamment sur les fonds, et cette liberté aussi dans la perspective qui rappelle un artiste comme Degas, par exemple, avec cette perspective renversée. Et surtout, ce visage incroyable coupé au premier plan, ce visage vert éclairé par en dessous, comme par les feux de la rampe.
C'est un masque, non? On n'a pas l'impression que c'est un visage, c'est presque un masque.
C'est vrai qu'il a quelque chose de proche d'un masque. Il est tout vert, comme s'il était imbibé d'absinthe. La lumière dessine des grands disques autour des yeux, et on a l'impression d'avoir un visage de halluciné entre le théâtre et l'hallucination.
Qu'est-ce que vous pensez de ce visage, Robert?
Moi, je pense que c'est... j'affirme rien. De toute façon, j'affirme jamais rien parce que je me trompe tout le temps. Mais non, c'est possible qu'on se trompe, on ne peut pas affirmer. Mais par contre, là, il me semble que c'est justement des types comme Toulouse-Lautrec, et ils ont les deux. Parce que le truc, c'est ça, c'est l'alchimie. C'est arriver à ce qu'une œuvre, ce soit elle marche, ou par une action conceptuelle ou intellectuelle, ou alors si c'est de la peinture, comme celle-là, ben c'est de la peinture. Donc, si vous voulez, à un moment donné, moi, je pense qu'il est arrivé à, comment dire, il peint, et à un moment donné, bon, il peint un tableau, pour moi, quand même, qui est très, très,
très,
très
composé, non?
Il comment
très...
dire, composé.
Voilà, composé, composé. Hein, oui.
Et c'est vrai que là où on voit quand même que c'est un peintre à part, c'est vrai que c'est la tête, oui, la tête, là. Cette tête, elle est à moitié, elle a dû être faite à moitié, moi, je pense, je suppose qu'elle est à moitié. C'est un coup comme ça, je veux dire. À des moments, on a des espèces de deal, on va dire, comme, de création. Là, il y a le tableau, il le fait, hein, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des points forts.
Vous voulez dire qu'à l'intérieur d'un tableau,
moi je pense que c'est ça.
Il y a, il y a un moment où il y a une intensité particulière qui se révèle, comme une aspiration très
rapide et efficace.
Donc il y a une trouvaille, en fait. Il y a une
moi, je pense que c'est ça. C'est le mélange de la trouvaille et de la technique, parce qu'il peaufine le truc. Il y en a deux endroits, quand même. Il y a ça aussi, là. La coiffure rousse.
La chevelure de Jeanne Avril.
De lumière. Hein. C'est comme des... On dirait des puits de lumière, moi, pour moi.
C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le tableau a une histoire assez particulière et encore pas totalement élucidée. On sait par exemple que ce visage probablement de May Milton, cette figure verte au premier plan, il est peint sur une bande posée à droite du tableau. Il y a deux bandes, une à l'horizontale et une à la verticale. Et on ne sait pas si ces bandes étaient présentes dès l'origine ou si elles ont été rajoutées par Lautrec, si éventuellement elles auraient été découpées ensuite. Et, donc il y a un mystère.
J'ai lu quelque part qu'il y aurait peut-être eu une coupure du tableau parce que cette figure était trop incroyable pour être acceptée à cette époque-là.
Voilà, il y a plusieurs hypothèses.
Ce n'est qu'une hypothèse.
C'est une hypothèse, mais on n'a pas de...
Est-ce que vous ne trouvez pas, Isolde, qu'on est presque dans un visage de Matisse? On est presque dans la Dame au chapeau vert?
Oui.
C'est d'une innovation incroyable.
Il y a autre chose encore.
Robert Combas.
Ben moi, je ne pense pas qu'il n'y a que ça. Alors après, si on regarde la composition, moi, je regarde ce qui m'intéresse dans le sens que personne ne l'a fait, donc ça m'intéresse parce que, ou que je ne connais pas, et ça fait que bon, j'ai du plaisir à regarder le tableau, et parce que des fois, les tableaux, bon, il y a beaucoup de tableaux qui ne m'intéressent pas. Et là, on est là quand même pour essayer de rendre une passion à la peinture qu'elle a perdue. Hein? Donc, il y a la forme de la femme, moi je dis, abstraite, hein? la robe de la femme, qui quand même, et pas que la robe de la femme, mais dans la composition, il y a des trucs que je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ça aussi, ça, c'est presque comme la table, quand même, la table, c'est...
La table blanche ou
non,
c'est
la table jaune, là.
Alors ça, c'est une sorte de balustrade qui est soulignée d'un trait rouge tout le long, côté gauche.
Je vois. Mais c'est une espèce de forme, tu vois, maintenant, on dirait une poutre, tu vois. Alors, si tu la vois après, c'est une poutre, pas tenue, mais enfin, il y a aussi les deux chaises. Alors, les deux chaises, c'est des formes aussi qu'on peut voir
très
autonomes. Dans les tableaux, on voit des choses autonomes. Il y a des choses qui me marquent comme ça, au feeling. Mais bon, je sais très bien que c'est pas comme le disent les gens, ils disent « Ah, je regarde le tableau, je l'aime au feeling ». C'est vrai, mais en vérité, c'est la culture qui nous fait aimer un tableau, apprécier un tableau d'une certaine manière.
Quand vous dites ça aussi, vous me montrez le col surligné de brun de Jeanne Avril sous sa chevelure rousse.
Donc il y a plein de formes quand même qui donnent le tableau assez attrayant si on essaie d'être un peu, entre guillemets, intelligent.
Alors, Isolde, aidez-nous à être intelligent. Informez-nous, qui sont les personnes qui sont autour de cette table qui est là?
Alors, on a déjà vu qu'au fond du tableau, il y avait Toulouse-Lautrec qui passait comme ça avec son cousin proche. Très caricaturé, en effet. Alors, il accentue d'ailleurs la différence de taille entre lui, de petite taille, et son cousin Gabriel Tapier de Céléran, qui était très grand.
Ouais, en tout cas, excusez-moi. Ouais. Je voulais simplement dire que tu disais très caricaturé. Et que ce qu'il y a de plus caricaturé dans la peinture, c'est un peu plus vieux. Pour moi, hein, c'est Bruegel ou des types comme ça. C'est les mecs qui sont en profil, qui vont jusqu'à Dubout. Parce que Dubout, c'est un peintre aussi.
Dessinateur du Midi. Dessinateur et humoriste du Midi.
Et oui, mais il est beaucoup plus inventif, par exemple, entre guillemets, sur... comment il s'appelle? Le mec qui se bat contre des moulins, là.
Don Quichotte.
Hein. Don Quichotte, l'artiste qui a le plus inventé sur Don Quichotte, loin de Picasso, il fait un mec. C'est notre ami Dubout. Et donc Dubout, il refait des caricatures qui pourraient se rapprocher en plus contemporaines de Bruegel. Et entre les deux, il y a ça. Il y a ces gens-là.
Alors, Isole, vous avez coupé.
Non,
non, on vous dira plein de choses, mais revenez sur ces deux silhouettes étranges au fond du tableau.
Oui, ces deux silhouettes étranges au fond du tableau, Lautrec et son cousin. À leur droite, nous voyons toujours dans l'arrière-plan, je vais aller de l'arrière-plan au premier plan en fait. On voit effectivement la Goulue qui est reconnaissable au chignon droit qu'elle porte, qui est en train d'arranger sa coiffure devant un miroir. Elle est accompagnée d'une amie, sans doute la Môme Fromage, comme vous le soulignez.
Qui adorait le fromage, on l'appelait comme ça parce qu'elle avait une passion pour le fromage, curieusement.
Édouard Dujardin, le critique musical ami de Toulouse. Lautrec se situe tout à gauche de la composition, derrière la balustrade. Il est tourné vers la Macarona, qui était une danseuse
espagnole. Il paraît que Dujardin a inspiré Joyce, que c'était aussi un romancier, et il a passionné Joyce, qui s'est inspiré de lui. Donc c'était quand même une société assez relevée. Il y avait évidemment ces danseuses qui étaient des artistes à leur façon, légères ou pas, peu importe, mais ça dépendait lesquelles, parce que Jeanne Avril était une femme très sérieuse, paraît-il.
Oui, c'est vrai que c'est ce qui était intéressant au Moulin Rouge, c'est ce mélange en fait des classes sociales, différents milieux sociaux, donc fréquentés par la bourgeoisie, voire parfois l'aristocratie, qui venaient en quelque sorte s'encanailler dans ces lieux de plaisir parisiens. Et effectivement, Dujardin, qui était un critique musical, fondateur de la revue Wagnerienne et directeur de la revue indépendante, est ici représenté par Lautrec, de même que le photographe Paul Sesco, que l'on voit entre Lautrec et la Goulue, avec sa moustache. C'était un photographe spécialisé dans la reproduction d'art. Il a notamment fait des photographies des œuvres de Toulouse-Lautrec. Et est assis à sa droite Maurice Guibert, qui était un négociant en Champagne, et nos sœurs invétérées. Et ce qui est très intéressant, c'est la façon effectivement dont Lautrec construit sa composition, on en parlait tout à l'heure, avec cette balustrade de biais au premier plan que l'on retrouve un petit peu dans le bal au Moulin de la Galette qui date de 1889, où il y a aussi un banc comme ça qui coupe la composition en travers. Et puis ces sortes de figures repoussoires avec Mae Milton au premier plan et le dos, Jeanne Avril de dos, qui comme ça construit un espace dans le tableau, bien que les repères spatiaux soient très brouillés, notamment à cause de ce fond occupé par des miroirs et des globes électriques qui se reflètent dans ces miroirs et qui font que l'on ne sait plus très bien dans quel espace évoluent ces personnages.
Mais c'est des miroirs qui n'ont pas du tout la même fonction que chez Manet, par exemple, où là, c'est des fonctions quasiment de balistique, si j'ose dire, c'est-à-dire des trajectoires optiques, alors que là, c'est au contraire une dissolution qui a lieu dans le miroir, j'ai l'impression.
Oui, on a vraiment l'impression que cet espace c'est un espace distordu dans les miroirs et qu'il correspond à une certaine forme de perte des repères spatiaux, temporels et sans doute à l'alcool, à la tabagie qui règne dans ces lieux-là. On a une forme d'équivalent plastique à ces sensations traduit ici par Lautrec en inventant un nouvel espace.
Alors écoutons à présent un extrait d'un texte consacré à Toulouse-Lautrec justement et rédigé par un écrivain et critique important que nous retrouverons dans l'histoire de l'art un peu plus tard, Gustave Coquiot.
Le coup pour Lautrec, je l'ai reçu un soir, il y a bien longtemps, en entrant au Moulin Rouge. Deux de ces extraordinaires peintures, si je m'en souviens bien, étaient exposées dans l'escalier. Et de ma vie, certes, je n'oublierai ce cirque Fernando et ce bal qui m'apparurent si étranges et si inédits. Comme je regardais, on me jeta ce nom, Henri de Toulouse-Lautrec. Tout de suite, mon imagination se débridant, je me dis, je vous le certifie, que ce peintre-là ne devait point physiquement ressembler aux autres. Oui, ces peintures décelaient vraiment pour moi un être bizarre, tout à fait en dehors du type peintre généralement admis. Était-ce un acrobate qui faisait à ses heures de la peinture? Un clown ou un écuyer? Pour la nouveauté du fait, je me mis à m'apesantir sur mon idée. Et tout bientôt l'enracina. Si bien que, revenu un autre soir devant les deux tableaux, il me fut toujours impossible, je le répète, de concevoir leur peintre sous une autre forme que déconcertante et anormale. Ah, nous étions loin des pacifiques dondons imaginés par d'autres dessinateurs de la femme. Par ce Constantin Guis, par exemple, duquel on a voulu plus tard faire dériver Lautrec, tant les sottises sont aisées à proférer. En tout cas, je n'arrivais point à m'arracher à ses faces en lames de couteau, à ses chignons tordus à larges coups de brosse. Les yeux surtout. Quels yeux guetteurs, sous la paupière battue comme une persienne. Et ses profils secs, ses gorges lourdes. Ah, quelle ménagerie, dont je sentais vraiment tous les entêtants remugles. J'admirais encore. Quand un ami me prit par le bras et m'entraîna dans le bal. Gustave Coquiot, Henri de Toulouse-Lautrec, 1913. Et la bande rosée.
On entendait Gustave Coquiot parler des chignons tordus à large coups de brosse. Et tout à l'heure, vous faisiez remarquer la beauté, effectivement, du chignon orange, roux de Jeanne Avril. Et vous faisiez remarquer également les formes abstraites qui, on a l'impression, s'empilent les unes sur les autres pour finir, dans leur accumulation, à faire une figuration.
Moi, je vois une fleur avec au milieu, tout à fait normal. La générale, c'est jaune au milieu. Non, les fleurs, je veux dire les marguerites, évidemment.
Oui, les pistils de la marguerite.
Voilà,
oui.
Et moi je vois un amoncellement, mais pas anarchique. Hein, c'est une fleur, ça.
Non,
mais
vous voulez dire que quand on sépare les éléments du tableau, ils prennent d'autres formes que ce qu'ils représentent. Et ça n'est que par...
C'est pas sûr que ce soit une autre forme. C'est une forme... Oui, quelque part.
Ils décrivent autre chose que ce qu'ils paraissent.
C'est parce que c'est la vie. Mais quand même, elle a mis ça... Vous connaissez les femmes, elle a bien pensé ce qu'elle mettait. Hein.
Elle a mis ça pour ressembler à une fleur, c'est ça que vous voulez dire?
C'est déjà une fleur.
C'est déjà une fleur. Qu'est-ce que...
Moi, il y a un petit problème qui me gêne, mais je ne veux pas parler de ça. C'est, et d'ailleurs ça m'intéresse très sérieusement, puisque bientôt, normalement, je pourrais peut-être essayer des choses expérimentales là-dessus. C'est la manière de montrer et de parler de la peinture. Pas nous, hein. Je parle... Ces films, je les trouve... Leur voix, excusez-moi, je trouve qu'ils ne sont pas en phase. Et c'est très intéressant parce qu'il y a quelque chose à faire. Parce que la peinture a des problèmes avec la visualisation... Je me tais, mais autrement, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que les voix sont pas en phase avec ce dont on parle et la qualité des écrivains et des artistes dont on parle.
Vous dire qu'on n'arrive pas à restituer par la parole ce que les artistes veulent dire.
Si. Mais bon, c'est pas le premier. Bon, j'aime bien, moi, le truc ancien, une fois, comme ça. Vous voyez, ça fait une connotation années 60, 50, les voix comme ça. Ça me gêne pas, mais moi, je trouve que ça, c'est pas ça. Donc, il faut trouver quelque chose parce que il va y avoir un phénomène de l'image qui n'a pas très longtemps qui va doubler les images qu'on va. Je m'exprime mal. Hein. En gros, il y a un nouveau phénomène de l'image qui va arriver.
Hein. Et ça va tout changer.
Je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui, c'est trop compliqué.
Quel est le lien de Toulouse-Lautrec, Isolde, avec la modernité de son époque? On sait qu'il aimait passionnément Degas, on sait qu'il... Mais est-ce qu'il regardait la Tour Eiffel? Est-ce qu'il s'intéressait à la photographie? C'était quoi son lien à l'époque et à l'invention de l'époque?
Oui, il s'intéressait à la photographie, s'intéressait surtout à l'art japonais et à des arts, à l'art de l'affiche, à des arts considérés comme mineurs, au théâtre aussi. Donc en fait, bien qu'il ait au départ suivi une formation assez classique, en entrant dans l'atelier de Bonnat puis de Cormon...
Bonnat qui était un académique, en fait.
Oui, hein. Voilà, qui était un académique.
Et Cormon qui était un peintre de scènes d'histoire,
peut-on dire ? Oui, notamment une grande scène historique montrant Caïn. Gauguin, qui avait été un succès de l'artiste et qui avait intégré le musée du Luxembourg.
Donc plus préhistoire qu'histoire.
Voilà. Et en suivant, somme toute, au départ, un chemin assez classique, va très vite s'intéresser à d'autres formes d'art et avoir une grande liberté dans la représentation. Ce qui m'a intéressé, moi, dans l'extrait que vous avez passé, voilà, la citation de Cocchio, c'est ce que dit Cocchio, c'est qu'il a d'abord rencontré Lautrec en voyant ses œuvres et qu'il a deviné en regardant ses œuvres que, je ne sais plus quels sont ses termes, mais qu'il s'agissait de quelqu'un qui présentait une anormalité.
Oui.
Et très souvent, les commentateurs de Lautrec, de son vivant ou juste après sa mort, ont parlé de son talent particulier d'être difforme, qui voit tout en laid et qui enlaidit les choses, ou qui, en quelque part, appliquerait au monde qui l'entoure une vision déformée. Donc,
il dit ce peintre-là ne doit pas ressembler aux autres. Hein. Il est tout à fait, doit être un être bizarre, tout à fait en dehors du type peintre généralement admis.
Voilà.
Mais est-ce que c'est pas un petit peu facile de dire il est différent, donc sa peinture est différente?
Si, tout à fait, mais c'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans la critique, et notamment juste après sa mort, où on a notamment ses détracteurs l'ont accusé de déformer, de caricaturer, d'avilir tout ce qu'il avait pris comme modèle, et qui faisait une interprétation, en fait, qui reliait sa difformité physique.
Alors pour nos auditeurs qui ne savent pas, donc il s'est cassé les deux jambes, avait une maladie qui crée une fragilité des os, et donc à l'âge de 14 ans, je crois, il s'est cassé les deux jambes successivement et il mesurait 1m50. Donc il avait un torse qui était développé normalement et pas les jambes.
Des jambes très courtes et puis une tête proportionnellement grosse par rapport à son corps. Et voilà, et donc il souffrait, à la fois il souffrait de ses infirmités et en même temps il avait une grande liberté dans sa façon de vivre et de peindre. Et effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à son époque et juste après sa mort, on a voulu nécessairement associer ses difformités physiques à sa façon de
peindre. Alors qu'on le voit dans ses affiches, il y a une grâce infinie dans sa façon de dessiner Loïc Fuller, Jeanne Avril, toutes les personnes qui sont autour de cette table, il leur a fait plus ou moins une affiche pour les célébrer, le photographe, donc c'est la jeune femme anglaise qui devait partir aux États-Unis, il lui a fait une affiche. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs, Robert Combaz, du talent d'affichiste de Toulouse-Lautrec?
Mais j'ai pas commencé à parler de Toulouse-Lautrec parce que il faut savoir une chose. Mais d'ailleurs, c'est que j'ai fait une exposition sur Toulouse-Lautrec qui était assez importante pour moi. Et j'exposais dans les salles vraiment. Et voilà, donc c'est déjà.
Dans la salle du musée d'Albi, vous voulez dire?
Oui.
Au milieu
donc
des
je pense, mais j'arrive pas à comprendre comment. Moi, il me semble que c'est cette espèce de précurseur de la modernité dans le sens qui fait des publicités. Et pourtant des créations incroyables. Et donc, pour moi, c'est le précurseur du pop art. Mais je n'ose pas le dire parce que ça paraît prétentieux. Mais je vois pas quelqu'un d'autre. Il fait quoi? Il représente des pin-up de l'époque, qui sont aussi des femmes, qui sont des artistes qui dansent et tout, mais un peu populaires. Donc il propose de montrer, en gros, des pin-up. Enfin, c'est presque des pin-up, vous voyez.
Avec de l'écriture publicitaire
en
autour.
En plus. Alors, ce qu'il y a d'intéressant à Albi, c'est que, vous voyez, par exemple, j'ai vu une affiche, le trois quarts des affiches connues, dont le gros personnage avec la petite femme, là, vous voyez, ils sont assis.
Avec le petit énorme. Chien.
Il est là, il y est là, je l'ai vu. Vous savez, c'est une affiche. Au musée Toulouse de Lautrec, on a les origines, pas les origines, non, les essais en grandeur nature, en craft. Alors c'est assez intéressant parce que, étant influencé plus ou moins par le japonais, mais tout ça, il y a un trait que dans la BD, après ils ont appelé ligne claire, quoi, je veux dire propre. Mais toutes les affiches de Toulouse de Lautrec sont très pensées et en même temps c'est moderne parce que il me semble que il y a des affichistes, mais un peintre affichiste artiste, il y en a d'autres, mais quand même lui c'est le. Et donc on voit les essais, on voit des dessins avec plein de hachures. Je me rappelle que ce qui m'a marqué aussi, c'était que en vérité je croyais qu'il était là, qu'il faisait un trait à la Matisse, mais il est comme Matisse, ils font plein de dessins et ils en choisissent un. Le meilleur. C'est très bien comme ça. Mais il a gardé quelques-uns. Donc à Albi, on voit des dessins d'un être humain.
Alors, Isole Plüdermacher, vous êtes les affiches de Toulouse-Lautrec. La plus connue, c'est Bruant. C'est peut-être la première qui l'est faite, probablement.
Oui, pour le Mirliton.
Pour le Mirliton, oui. Bruant venait de reprendre le Mirliton, oui. Qui est en fait l'ancien chat noir qu'il a rebaptisé, oui. J'ai l'impression. Oui. Et c'était une personnalité savoureuse du milieu parisien, oui. Qui insultait ceux qui venaient le visiter.
Oui. Et qui a relancé, qui a lancé la mode des cafés-concerts avec des chansons inspirées par la rue et les milieux populaires.
Nini Pochien, à la Bastille, voilà. Auprès de ma blonde et beaucoup d'autres.
Ce qui est intéressant aussi avec Lautrec, pour poursuivre sur la discussion, c'est la dimension humoristique aussi, qui est très présente dans son art et dans sa personnalité. On sait qu'il était grand amateur de jeux de mots et qu'il aimait la parodie, qu'il aimait détourner les œuvres des maîtres. Et notamment dans sa jeunesse, il avait fait une copie parodique du bois sacré de Puvis de Chavannes, qu'il appelait Pubis de Cheval. Donc il avait vraiment un sens du jeu de mots, de la dérision, il a exposé avec les incohérents, enfin, donc ça c'est quand même une dimension importante à souligner.
Alors les incohérents et les hydropathes, c'était un mouvement pré-dadaïste, on peut dire, voilà. De la fin du 19e siècle, et dont le personnage clé était peut-être Alphonse Allais, Éric Satie par exemple.
Voilà, amateur de toutes sortes de jeux de mots et de détournements. Donc, cette dimension-là, elle est vraiment...
Éric Satie qui partageait avec Toulouse-Lautrec l'amour de Suzanne Valadon, puisque l'un et l'autre ont été amoureux de Suzanne Valadon pendant quelques nuits.
Voilà, Lautrec a été très lié avec Suzanne Valadon. Et effectivement, ce milieu montmartrois, dans lequel il a passé la plupart de ses années entre le milieu des années 1880 et 1895, et qu'il a pris pour sujet, il a vraiment été associé à Montmartre.
On a l'impression qu'il créait en toute liberté, c'est-à-dire qu'il n'était pas soucieux de vendre. Il a exposé à Bruxelles assez tôt avec le groupe des vins, mais on a l'impression qu'il était d'une très grande indépendance par rapport à cette idée du marché de l'art. Est-ce vrai ou est-ce qu'il était en quête de reconnaissance? Quel était son...
Il avait une aisance financière du fait de ses origines aristocratiques.
La famille des comtes de Toulouse.
Voilà. Cependant, il était très lié aussi à Maurice Joyant, un ami d'enfance qui avait repris la tête de la galerie Goupil et avec qui il a organisé plusieurs expositions, Toulouse-Lautrec. Et en tout cas, on sait qu'il était très soucieux du rendu, notamment de ses affiches. Il travaillait beaucoup avec les éditeurs, les imprimeurs. Et ce qui lui importait, c'était d'obtenir le meilleur rendu possible. Après, pour le côté valeur marchande de l'art, je ne suis pas sûre que c'est ce qui l'intéressait, mais aussi de savoir par qui ses œuvres allaient être acquises, si une œuvre qui appartenait à un de ses amis allait être vendue. Voilà, il était plus soucieux de savoir, de connaître la destination de chacune de ses œuvres.
Robert Combat, sa liberté est un peu la vôtre, croyez-vous ? Est-ce que vous partagez ce sentiment de liberté ?
Non, parce que quand même, il y a des techniques. Moi, par exemple, aux Beaux-Arts, j'ai pas voulu continuer à travailler sur... c'était encore à l'époque des diplômes, sur un diplôme de gravure, parce que il y a quand même une technique particulière sur la gravure. Enfin, lui, c'est la litho. Même si tu les fais pas toi-même, enfin, c'est quand même contraignant. C'est une technique. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est les graveurs qui marchent pas, qui travaillent pour les artistes.
Vous en avez fait beaucoup des affiches, vous aussi, Robert Combas.
Oui, mais bon, c'est toujours pareil. On le fait toujours avec quelqu'un et j'essaye de freiner ça parce que c'est, à un moment donné, je me suis aperçu qu'on faisait des reproductions. Enfin bon, bref. En tout cas, Toulouse-Lautrec, lui, c'est un vrai fabricant d'affiches. C'est une référence. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que justement, sa liberté d'artiste... elle se voit sur ses tableaux, parce que à un moment donné, il y a la liberté d'artiste. Et il y a des gens qui disent même que des trucs comme Lascaux, tout ça, ça... Mais même ça, c'est, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait qu'il y a la création en plus, il y a quelque chose de personnel. Pour moi, c'est comme des petits miracles. Donc, quand il fait la tête bleue, c'est pratiquement, pour moi, une espèce de religion, c'est la religion. Ce qui m'intéresse dans le tableau, c'est clair, on voit le tableau, on voit la tête pratiquement presque de suite, hein. Donc, on est attiré parce que c'est l'œil, hein, je veux dire. Donc, il fait autre chose que de la peinture. Il a en plus la liberté de créer quelque chose qui va nous toucher par son côté abstrait, mais avec un côté touchant et spirituel, quoi. Tu crois, hein, non ?
Oui, tout à fait. Je regarde en ce moment une affiche magnifique qui est l'œil Fuller, qu'il a fait avec une pulvérisation de peinture à partir d'une brosse à dents. Et c'est une très grande tache abstraite qui apparaît au milieu de l'affiche. Et c'est d'une liberté folle, en fait. C'est vraiment totalement...
Mais parce qu'il se rapproche, il me semble, il se rapproche. Mais en vérité, c'est un homme qui aime les femmes. Et... Parce que les hommes, je pense pas que Toulouse-Lautrec ait un problème comme le trois quarts des hommes. Ça veut dire un problème de... C'est pas le genre de type, il y en a pas beaucoup qui veulent prendre le pouvoir sur les femmes.
Alors, je te propose d'écouter le journaliste et romancier Gustave Geffroy, spécialiste impressionniste, Sisley, Monet particulièrement, et qui s'intéresse à cette nouvelle génération d'artistes dans Toulouse-Lautrec qu'il remarque dès 1893. Écoutons-le.
Avec une couleur différente, parfois sourde et somptueuse, parfois boueuse, presque sale, suivant les cas, Lautrec, peintre et pastelliste, se montre aussi expert à exprimer le surgissement d'un individu. L'apparition spontanée d'une attitude ou d'un mouvement, l'allée et venue d'une femme en marche, le tournoiement d'une valseuse. Chaque fois, il y a de l'inattendu dans la manière d'être qu'il nous montre. Ce n'est pas la pose comme déjà vue et reproduite à tant d'exemplaires, et pourtant c'est une pose naturelle. Une des infinies poses naturelles que l'œil fin d'un artiste a su discerner entre toutes les autres, érigée comme un résumé d'existence physiologique et sociale. Il y a un côté traditionnel dans cet art, et les maîtres qui en ont été les initiateurs et les représentants successifs pourraient être nommés. Il y a de la gouaillerie, de la cruauté avec complaisance chez Lautrec lorsqu'il nous donne à visiter les bals, les intérieurs de filles, les ménages hors nature. Mais il reste artiste intègre. Son observation impitoyable garde la beauté de la vie et la philosophie du vice qu'il affiche parfois avec ostentation provocante prend tout de même par la force de son dessin, par le sérieux de son diagnostic, la valeur d'une démonstration d'une leçon de clinique morale. Gustave Geffroy, La Justice, 15 février 1893.
Vous êtes sur France Culture, nous parlons de Toulouse-Lautrec avec Isole Pudermacher, conservateur au Musée d'Orsay, et l'artiste Robert Combas. Isole, je trouve que... On peut s'interroger sur le regard, effectivement, que Toulouse-Lautrec a à ce moment-là sur les femmes. Pour ma part, je trouve que c'est un regard sans complaisance, mais sans cruauté, alors que la cruauté est souvent soulignée. Est-ce qu'il n'y a pas, au contraire, une sorte de bienveillance dans sa relation telle qu'elle s'exprime dans ses tableaux, en tout cas ?
Oui, et vous avez raison de souligner que la cruauté du regard de Lautrec a été beaucoup soulignée, mais... par ses contemporains ou juste après sa mort, on a parlé d'un regard cruel sur ses modèles. Cette vision n'est plus du tout partagée aujourd'hui. On aurait plutôt tendance à dire qu'il a une empathie avec ses modèles, notamment les femmes qu'il représente dans les maisons closes.
Souvent des femmes d'un certain âge, fatiguées.
Voilà, en tout cas, il rend à ces femmes leur humanité et leur individualité. Contrairement peut-être à ce tableau au Moulin Rouge, où en effet, on a l'impression d'être face à des masques, puisque les visages, leur individualité disparaît sous le maquillage outré et dans une atmosphère quasi rêvée. En revanche, effectivement, les femmes qu'il représente dans les maisons closes, il rend la fatigue de leur corps, les longs moments d'attente, la mélancolie de leur regard.
Mais aussi la tendresse entre elles. Parce que il a vécu, il était heureux, je pense, dans ces maisons closes. Il a vécu dans l'une d'entre elles, n'est-ce pas ?
Alors, c'est ce que certains biographes disent, ça paraît, on peut s'interroger, puisque ces maisons closes étaient de fait interdites aux hommes durant la journée, mais la légende veut qu'effectivement il y ait passé plusieurs journées dans ces maisons closes.
J'ai cru qu'il s'était vraiment installé rue des Moulins, enfin, on a dit ça à une époque.
C'est ce qui est dit, oui, en effet. En tout cas, il laissait, peut-être est-ce de là qu'est née la légende, ou pas la légende d'ailleurs, il laissait son matériel de peintre et ses tableaux qu'il réalisait dans la maison close.
Ce que les tableaux donnent l'impression, et je pense à des tableaux qu'il a réalisés effectivement là-bas, c'est qu'il avait une intimité avec elle qui n'était pas seulement celle d'un client, mais celle d'un confident ou de quelqu'un qui était parmi elle comme avec des gens d'une famille quasiment. Les scènes saphiques parfois qu'il représente sont des scènes d'une gentillesse, d'une tendresse très humaine et assez peu érotisées au fond.
Oui, à l'exception de certaines œuvres, mais effectivement, la tendresse qui ressort essentiellement de ces scènes lesbiennes, il y a plusieurs peintures autour de ce sujet, qui correspondent toutefois aussi à un certain imaginaire érotique bien implanté à l'époque, lié aux maisons closes et aussi à cet univers des cafés-concerts où les femmes avaient très souvent, disait-on, des relations tendres entre elles puisqu'elles avaient des relations vénales avec les hommes et du coup trouvaient plutôt des sentiments sincères auprès des femmes. Mais effectivement, l'humanité du regard de Toulouse-Lautrec se perçoit et on a l'impression que nul autre que lui n'a ce regard sur les femmes de maisons closes notamment, sachant que le moment où il peint les maisons closes est un moment où le nombre de ces maisons closes décroît. Il y en a de moins en moins à Paris et seules subsistent les maisons dites de haute tolérance. Et à ce moment-là, c'est le développement aussi d'un nouveau discours sur les prostituées, où les prostituées ne sont pas vues nécessairement comme des femmes déviantes, mais plutôt comme des victimes de la société. Et quelque part, cette peinture de Toulouse-Lautrec reflète cette nouvelle appréhension du phénomène.
Alors, Robert Combas, l'éros, l'érotisme, c'est quelque chose qui est très présent dans votre travail aussi. Quelle place est-ce que ça a pour un peintre aujourd'hui, ce sujet ?
C'est pas bon, évidemment que ça me paraît quelque chose de normal dans le sens du sujet. Après, évidemment, on est un artiste, alors pas parce que moi on peut s'intéresser à mon travail là-dessus, mais c'est un thème comme un autre. Mais avant, c'était assez proche de la gouaillerie. Ça s'est beaucoup sophistiqué.
La gouaillerie, c'est ce langage populaire comme ça que l'on entend chez Bruant et que l'on lit dans vos
toiles. C'est pas le même, mais on pourrait rapprocher ça parce que c'est inventif. Parce que Toulouse-Lautrec, je le vois pas très gouaillerie. Ou alors petit gouaillerie poli, alors.
Non, mais je pense
qu'il y a que les dessins érotiques qui sont cachés.
Si je vous interroge là-dessus, parce que effectivement, oui. On a entendu ce mot tout à l'heure dans la critique, ouais. Mais le milieu dans lequel il évolue et qui lui plaît, et qui l'amuse, c'est un milieu, celui d'Aristide Bruant et des autres, qui a une gouaille particulière.
Oui.
Et dans votre travail, votre gouaille du 21e siècle, la gouaille d'aujourd'hui, est très présente. Vous écrivez des poèmes.
Oui, mais moi j'invente, moi j'essaye d'inventer mon langage de gouaillerie, alors que c'est vrai que parce que j'ai vécu dans un endroit où il y avait une grosse invention de ce style de parler, quoi.
Ça enrichit votre travail d'inclure dans les mots comme ça à l'intérieur de la peinture.
Parce que finalement, tout ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire à 20 ans. Et ça fait partie d'une espèce de... C'est la vie, quoi. Mais moi, en fait, quand je me rapproche beaucoup de ce que je... des problèmes que j'ai, surtout, même créativement. Voilà. Donc, tout m'intéresse et rien m'intéresse. Mais pour parler de Toulouse-Lautrec, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Par exemple, j'ai plus de 3 tableaux, quand même, qui... C'est des tableaux importants dans mon travail et les gens qui s'intéressent à mon travail le reconnaissent aussi. Il y a 2 femmes et c'est des tableaux directement influencés avec un rapport à Toulouse-Lautrec, dont les jambes. Donc c'est un tableau qui représente les jambes. Et le titre, en vérité, j'ai fait un parallèle avec Moulinier.
Oui.
Qui a adoré ses jambes.
Grand photographe de la fin du surréalisme et peintre d'ailleurs.
Exactement.
Et qui fait beaucoup de photographies auto-érotiques et travesties.
Et notamment ses jambes. Et il y a 2 femmes d'ailleurs. Bah, il faut les voir, je ne les ai pas là, mais bon. Ils ont un rapport. Il y en a une, je l'appelle l'icône ostensoir. C'est une femme qui devient un ostensoir, mais pas religieux. Et donc, c'est entouré d'ailleurs de petits.
Mais vous avez raison d'évoquer.
De petits éléphants.
Vous avez raison de parler des jambes, parce que les jambes, à cause du French cancan, de cette sorte de danse dite naturaliste de l'époque, fait partie de la vie et du monde de Toulouse-Lautrec à cette époque-là, et de la découverte comme ça d'une nouvelle façon excitée de danser, qui est assez passionnante. Isolde, vous parliez tout à l'heure du masque du personnage de droite.
du tableau. Et je pensais à la question du maquillage. Mmh. Le maquillage est quelque chose qui semble intervenir. Je pense que Baudelaire a écrit un texte sur
un
le maquillage.
Un éloge du maquillage dans Le peintre de la vie moderne.
Et donc c'est une mutation importante dans la sensibilité de l'époque ?
Oui, vraiment, il me semble, puisque dans le texte de Baudelaire, entre autres, ce qui apparaît de manière très flagrante, c'est que le maquillage peut être considéré comme une peinture de visage. Et donc, le visage maquillé, c'est une forme de... Enfin, c'est comme si le corps devenait peinture. Et le maquillage était particulièrement utilisé par les prostituées, notamment, mais aussi par les comédiennes, pour accentuer leurs traits, pour se faire remarquer, pour attirer le regard. Donc, effectivement, pour les artistes, il s'agit d'un sujet particulièrement intéressant qui permet d'inventer de nouvelles manières de peindre en optant pour des moyens beaucoup plus radicaux.
Dites-moi, les deux visages très maquillés que l'on a dans le tableau que nous venons de voir ensemble, est-ce qu'ils ne seraient pas maquillés à ce point-là parce que ce sont des visages qui sortent de la scène ? Est-ce qu'elles n'ont pas dansé 5 minutes auparavant et éclairées par les lumières électriques de la scène? Elles avaient besoin de ce maquillage particulier? Est-ce qu'elles ne sont pas comme quelqu'un qui sort d'une émission de télévision encore maquillée et...
Oui, vous avez tout à fait raison. Il pourrait tout à fait s'agir d'un après-concert ou danse, puisque le Moulin Rouge comportait, était un grand espace où il y avait effectivement une piste de danse, une scène où se produisaient les actrices et les danseuses. Donc, il y a des éléments qui peuvent rappeler la réalité de l'activité de ces femmes, en effet.
Robert Combaz, vous aussi, vous outrez les traits des visages des femmes
Ouais, moi, je m'inquiète direct. Oui. Je maquille entier.
Vous tatouez presque.
Oui, parce que j'ai plusieurs travaux dans mon travail. Je ne fais pas que de la couleur entourée de noir.
Vous
et donc, il y en a un qui s'appelle les tatouages académiques, d'ailleurs.
Oui.
Et là, je tatoue direct.
Qu'est-ce que ça veut dire, cette insistance sur les traits, cette façon de cerner toutes les...
Je ne peux pas dire que je n'en sais rien. Mais bon, quelque part, ça fait partie du processus, qui est un processus... maintenant très élaboré, où je passe par des passes quasi... Bon, je ne veux pas dire chamaniques, parce que le problème, c'est que... Bon, en gros, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des chamans, mais ils ne sont pas. Moi, je ne suis pas un, d'ailleurs.
Non, mais vous travaillez là-dessus plutôt dans la partie performance de votre activité, non ?
Tout peut arriver sur un tableau, parce qu'il y a des moments où je travaille comme une adaptée mentale, mais des fois, je travaille aussi comme quelqu'un apparemment intelligent. C'est vrai que c'est parce que c'est tout, parce qu'il faut qu'il y ait tout dans un tableau, il me semble, pour qu'il soit fort. Parce que pour moi, c'est presque la guerre. Je fais la guerre contre les autres, pas contre les autres, pas contre, pour les autres. Parce que je vois pas d'autre solution. Parce que moi, les gens, ils me voient parce que j'ai un côté populaire, donc maintenant, il y a une espèce de mythe qui se prépare. D'ailleurs, c'est difficile de devenir, excusez-moi, hein, un mythe quand on est vivant. Et alors là, ça craigne. C'est pour ça que je préférais pas l'être. Il y a une demande intérieure. Et alors, Toulouse-Lautrec, lui, il a échappé à ça un peu, vous voyez. Hein,
on lui demandait beaucoup de services, des affiches. Je pense qu'il a été très sollicité par ses amis qui voulaient un tableau, une affiche, un dessin. Il faisait beaucoup de...
Il me semble que c'est le début de la modernité branchée et tout, vous voyez. Même si c'est branché mieux. Parce que moi, en tout cas, vous voyez, aujourd'hui, il me faut 30 ans pour rencontrer des artistes intéressants. Vous voyez, 30 ans que j'attendais de rencontrer 2 ou 3 mecs qui puissent rivaliser avec les rencontres qu'avaient les écrivains et les peintres à cette époque-là ou même après. Il y a une nostalgie de ça, vous voyez.
Isolde Pludermacher, vous avez eu l'impression que Toulouse-Lautrec travaillait pour ses amis ou est-ce qu'il... Ce que je voudrais revenir sur cette question de son lien avec l'époque. Tout à l'heure, vous avez parlé de Degas et de Manet. Manet, donc c'est avant, je pense qu'il faut se souvenir que Toulouse-Lautrec est né quoi? Au moment de l'Olympia,
L'année d'avant l'exposition d'Olympia.
L'année d'avant l'exposition d'Olympia.
Elle était déjà peinte, mais pas encore exposée.
Voilà, et donc il est mort très jeune, à 37 ans. Il a travaillé énormément. Il avait une adoration pour Degas, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il regardait d'autre? Il a rencontré Van Gogh, par exemple?
Oui, il a rencontré Van Gogh, toujours par l'intermédiaire de Joyon, puisqu'ils étaient dans la même galerie, la galerie Goupil. Ils étaient proches. Van Gogh est passé aussi par l'atelier de Cormon.
Oui, Cormon a été important aussi pour Émile Bernard, peut-être, également.
Oui, il a fréquenté...
L'ami de Gauguin, qui a inspiré le cloisonnisme
voilà.
de Gauguin.
Voilà, Émile Anquetin aussi, avec qui, dont il était très proche, avec qui il est allé à Amsterdam. Donc, il y avait tout un cercle d'artistes autour de lui. On sait que Seurat aussi a pu être influencé par Toulouse-Lautrec parce qu'il avait vu son tableau du cirque Fernando dont on parlait tout à l'heure qui avait été exposé justement au Moulin Rouge. Donc cette thématique du cirque qui avait été déjà traitée par Degas.
Est-ce qu'il n'y a pas un grand personnage qui a été influencé par Toulouse-Lautrec qui arrive à Paris en 1900 et qui va peindre lui aussi des prostituées jusqu'à son fameux bordel d'Avignon?
Oui, bien sûr, Picasso a été très marqué par Toulouse-Lautrec. Il y avait d'ailleurs, il y a quelques années, une exposition au Courtauld de Londres qui s'appelait Becoming Picasso, où les œuvres de jeunesse de Picasso étaient mises en relation notamment avec des œuvres de Lautrec. Et nous-mêmes, dans l'exposition, on fait un face-à-face entre la buveuse du rat mort de Toulouse-Lautrec et la buveuse d'absinthe de Picasso, où ce traitement, finalement assez proche de la caricature, ces visages aux traits accentués, au maquillage appuyé, sont effectivement très proches. Et d'ailleurs, May Milton, le fameux visage vert qui apparaît à droite de la composition, a fait l'objet d'une lithographie par Toulouse-Lautrec. Et cette lithographie figure dans un tableau de la période bleue de Picasso, La Chambre bleue. On retrouve May Milton au mur de ce tableau qui est conservé à Washington.
Et donc le dernier grand descendant de Toulouse-Lautrec est près de moi, c'est Robert Combas.
Ça m'étonnerait.
Non, vous n'êtes pas un descendant de Toulouse-Lautrec? Vous m'avez dit avoir été influencé par...
On est des descendants, mais moi, j'ai pas vraiment de rapport avec Toulouse-Lautrec, dans le sens de sa technique particulière. Mais par contre, il y a un rapport entre nous, et je sais que ça va paraître, mais je vous assure que je ne suis pas ce genre de type, mais je suis obligé de... Je travaille d'abord sur les femmes, oui, parce que j'en avais marre de parler à des hommes. Donc j'aurais tendance à préférer découvrir les femmes. Je dis que Toulouse-Lautrec est un homme qui peint les femmes.
Et d'ailleurs, vous avez fait...
Pas beaucoup. Regardez bien les peintures de par exemple, je sais pas, Rouault. Franchement, c'est prostitué à Rouault. Attention, c'est autre chose. Et lui, il comprend, il fait des femmes. Hein. Il fait pas des prostituées, Toulouse-Lautrec. C'est ça la grosse différence.
Merci beaucoup, Robert Combas. Merci, Isolde Pludermacher. Merci d'avoir
Merci
participé
beaucoup.
Avec nous à cette aventure.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé ensemble une peinture réalisée par Henri de Toulouse-Lautrec vers 1892-1895, intitulée Au Moulin Rouge et aujourd'hui conservée à l'Art Institute de Chicago. Pour en parler, nous étions en compagnie de l'artiste Robert Combas, merci Robert, et de Isolde Pludermacher, commissaire associé de l'exposition Splendeur et Misère. Merci Isolde. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr, merveilleusement développé par notre attaché d'émission, Sylvia Favre. Merci Sylvia. Lecture des textes, Lara Brulle. À la technique, Jehan Richard Dufour, réalisation Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam. Merci Sandra d'avoir préparé tout cela et de Jean Loisy.
Babe, come until you go.